Bienvenue sur Radio Orient et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de l'Orient décrypté. Aujourd'hui, nous allons parler de la Palestine à un moment où plusieurs pays européens et au-delà ont choisi de reconnaître l'État palestinien en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Mais derrière ces gestes diplomatiques se pose une question centrale. Que change réellement une reconnaissance sans règlement final? Et surtout, 30 ans après, que reste-t-il des accords d'Oslo, autrefois salués comme une promesse de paix, mais qui pour beaucoup sont devenus le symbole d'un processus inachevé, voire condamné dès le départ, comme le disaient certains intellectuels palestiniens. Pour éclairer ces enjeux, nous recevons Jean-Pierre Perrin, grand reporter, spécialiste du Proche-Orient, du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Merci d'être avec nous.
Merci, bonjour.
Commençons par le plus immédiat, la reconnaissance. Plusieurs pays ont récemment franchi le pas. Juridiquement, qu'est-ce que cela change concrètement et qu'est-ce que cela ne change pas en l'absence d'accord final?
Alors évidemment, reconnaître un pays qui n'est pas maître de son territoire, puisque Gaza est actuellement complètement anéanti par l'armée israélienne et la Cisjordanie est occupée, non seulement occupée, mais il y a des projets d'annexion même de cette région. Donc évidemment, ça peut sembler étrange de reconnaître un pays qui n'est pas un pays, en fait, ce qu'on peut comprendre par pays, c'est-à-dire d'abord un territoire. Mais à côté du territoire, il y a le peuple. Et c'est le peuple que l'on reconnaît néanmoins. C'est pour ça que ce n'est pas simplement un acte symbolique. C'est sans doute une reconnaissance qui ne va pas aller très loin. Mais en même temps, on consacre le peuple palestinien qui est menacé tout simplement de ne plus exister puisque les projets israéliens sont d'une part de faire du nettoyage ethnique, on va appeler ça comme ça, à Gaza, et ensuite d'annexer la Cisjordanie puisque si on prend en compte les déclarations du ministre des Finances Smotrich israélien, il parle d'annexer 82% de l'actuelle Cisjordanie, donc c'est énorme. Il ne resterait plus qu'une petite enclave, n'aurait aucune portée politique, enfin, ça ne serait rien du tout. Donc, on reconnaît le peuple, et ça, c'est déjà fondamental. Et d'ailleurs, si cela ne changeait rien, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, n'aurait pas réagi aussi férocement en accusant le président français d'antisémitisme. Donc, ça, quelque part, ça a touché les Israéliens. Même si, effectivement, il ne faut pas trop en attendre.
Alors, on le voit bien, l'Europe, plusieurs pays européens ont annoncé qu'ils avaient l'intention de reconnaître un État palestinien. Et bien au-delà, on voit bien que l'Europe n'avance pas d'une seule voix sur ce sujet.
Mais, juste un point important quand même, c'est que la reconnaissance, cette reconnaissance, quand elle interviendra, va avoir un effet d'entraînement. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne n'exclut pas de s'y rallier, par exemple. La Hollande, peut-être également. Alors, au-delà de l'Europe, il va y avoir l'Australie, qui va sans doute aussi rejoindre la reconnaissance, la Nouvelle-Zélande. Donc, vous voyez, cet effet d'entraînement aussi joue un rôle important. Autre chose importante, c'est que cette reconnaissance s'inscrit dans un plan franco-saoudien.
Alors justement, qu'est-ce qui freine ces pays? Pourquoi ils sont indécis? On reconnaît, on ne reconnaît pas?
À cause d'Hamas, déjà, qui est un mouvement terroriste et donc et qui est quand même toujours le maître clandestin ou souterrain de Gaza. Donc cela freine déjà beaucoup la reconnaissance, ce qui s'est passé aussi le 7 octobre. Et puis, il y a d'autres pays, pour des raisons historiques, comme l'Allemagne, qui ne veulent pas, disons, se fâcher avec Israël ou qui ont un sentiment de culpabilité vis-à-vis d'Israël et qui n'osent pas donc franchir le pas.
Alors, à côté de ces initiatives qui se sont multipliées ces derniers temps, il y a le droit international. On le sait, la reconnaissance n'exige pas toujours la complétude des critères classiques comme ceux de Montevideo. Comment les États justifient-ils une reconnaissance politique dans un contexte aussi conflictuel?
Là, il est question quand même de la survie d'une entité, l'entité palestinienne. L'autorité palestinienne, ce qu'elle est, c'est-à-dire plus grand-chose, elle est complètement décrédibilisée, elle est corrompue, la population ne se reconnaît pas dans cette entité. Donc, elle est totalement moribonde avec un président, Mahmoud Abbas, qui ne devrait plus l'être depuis des années. On a de l'autre côté un mouvement comme le Hamas, qui est une entité qui n'est pas non plus très sensible à la démocratie. Donc, il fallait quand même avoir quelque chose pour avancer. C'est-à-dire, cette reconnaissance est un petit peu un garde-fou pour empêcher complètement la disparition de l'entité palestinienne. Et puis, quand même, il y a 145 pays qui ont déjà reconnu la Palestine, ce qui n'est pas rien. Alors, évidemment, il n'y a pas forcément des poids lourds parmi ces 145 pays, mais quand même, à l'Assemblée générale des Nations unies, ça pèse néanmoins, puisque chaque État a une voix.
Alors, restons sur la scène internationale, et vous m'avez tendu la perche, mais cette fois à l'ONU. L'Assemblée générale a déjà élargi certaines prérogatives de la Palestine en tant qu'observateur. En quoi ces avancées procédurales peuvent-elles devenir de véritables leviers politiques ?
Alors, je ne sais pas si ça deviendra de vrais leviers politiques. Non, pour le moment, la loi, c'est la loi des armes. C'est la loi des rapports de force. Et les rapports de force sont en faveur d'Israël, qui ne se moque complètement de la légitimité internationale, de la souveraineté des États, puisque c'est permis de frapper le Qatar, par exemple, avec le bombardement. Oui. Il ne respecte pas la souveraineté ni libanaise, ni syrienne. Donc, on a un État qui est complètement intoxiqué par sa suprématie militaire. Et cette suprématie militaire remplace pour Israël la pensée politique et même la diplomatie. Donc, il ne faut pas s'attendre, tant que M. Netanyahou sera au pouvoir, c'est-à-dire qu'encore pendant plus d'un an, à ce que le politique revienne au premier plan. Pour le moment, c'est le militaire. Le militaire, un point, c'est tout. Les négociations ont été un camouflet et je pense qu'il n'a jamais eu véritablement d'intention pour les Israéliens de négocier sérieusement avec le Hamas.
Que peut faire l'ONU concrètement, puisque on bute toujours et souvent sur le Conseil de sécurité? Quelles sont les marges réelles de manœuvre de cette organisation? A-t-elle encore le poids qu'elle avait en temps?
Non, elle n'a plus le poids. D'abord, elle n'a pas été à la hauteur de sa mission. Certes, les déclarations de son secrétaire général sont souvent intéressantes, mais elle n'a pas été à la hauteur, pas seulement avec Israël, mais dans tout le Proche-Orient. Elle n'a pas été à la hauteur en Syrie, elle n'a pas été à la hauteur au Liban. Et puis, prenons en compte que les principales puissances se moquent d'elle, en particulier les États-Unis, évidemment la Russie, si. Voire la Chine. Donc, la Chine encore est beaucoup plus légitimiste. Mais ni la Russie, ni les États-Unis ne font attention à l'ONU. Ils s'en moquent complètement. La meilleure preuve, c'est que Trump n'a pas accordé de visa à la délégation palestinienne. Vous voyez, on a franchi un cap, là, quand même. On a franchi une sorte de ligne rouge. C'est vraiment une dévalorisation totale de l'ONU, puisque son secrétaire général vous a invité cette délégation à venir.
Revenons aux accords d'Oslo. Ces fameux accords qui, il y a 30 ans, ont été salués. Quel est le bilan structurel de ces accords? Qu'ont-ils permis et qu'ont-ils laissé en jachère?
Alors, ils ont été une espérance, une véritable espérance pour beaucoup de Palestiniens, pour beaucoup d'Israéliens également, les Européens, les Américains. Je me souviens du ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, qui racontait qu'il se trouvait un jour avec le premier ministre Ehud Barak à la limite de la Cisjordanie et de l'État israélien. Et Ehud Barak lui a dit, vous voyez, là, de l'autre côté de cette route, eh bien, il y aura un État palestinien. Donc c'est un Israélien Premier ministre qui le disait. Donc il y a eu une véritable espérance. Je sais qu'aujourd'hui, on peut dire, bon, les Israéliens faisaient gagner du temps. Non, il y a eu une véritable espérance. Maintenant, évidemment, cette espérance est morte. Le fait des deux États que les accords d'Oslo envisageaient sont bien difficiles à imaginer, sachant la multiplication des colonies en Cisjordanie. Il y en a absolument partout. Et à l'époque, il y en avait beaucoup moins. Et les projets de nouvelles colonies, quand même, la construction de 3600 logements dans une partie charnière de la Cisjordanie, vont encore rendre impossible le projet d'une entité palestinienne sur la Cisjordanie. J'ajouterais que faut peut-être pas séparer la Cisjordanie et Gaza. C'est la Palestine. Elle est constituée de ces deux entités. Il aurait très bien pu y avoir un couloir qui les aurait reliés. Je crois que ce qui a saboté un peu ces accords, alors la faute est des deux parties. D'abord, l'assassinat de Rabin, le Premier ministre, a été évidemment un choc terrible pour ces accords.
Oui, pour ce processus.
Il faut voir que ceux qui sont actuellement au pouvoir, les ministres d'extrême droite, ce sont ceux qui ont salué cet assassinat. Donc vous voyez ce renversement de l'histoire qu'il y a pu y avoir. On a aujourd'hui au pouvoir, au gouvernement, des gens qui ont salué l'assassinat et qui appartiennent à la même mouvance politique que ceux qui ont assassiné Rabin. Ça, c'est un premier point. Et puis donc, ceux qui ont saboté également ces accords, évidemment, c'est le Hamas, par cette vague d'attentats qui a complètement, comment dire, conduit les Israéliens à désespérer de la paix. Ce qui aujourd'hui est à prendre en compte quand on regarde la situation, c'est que si les Israéliens ne s'intéressent absolument pas, hormis une petite minorité, à ce que subit la population gazaouite, à cette éradication, à ce nettoyage ethnique, c'est tout simplement parce qu'ils ont pris en compte aussi un élément, c'est que du côté palestinien, on ne veut toujours pas d'État israélien, on n'est toujours pas prêt à lui donner la moindre légitimité, on veut toujours sa disparition. Donc on est dans une situation, disons, nous sommes dans un goulet dont on ne voit pas l'issue, et je crois que le pire est peut-être encore à venir. Je fais référence à la déclaration du ministre de la Défense, l'actuel ministre de la Défense, Gédéon Kass, qui a dit qu'avec la nouvelle offensive israélienne sur Gaza, les portes de l'enfer sont en train de s'ouvrir.
Alors, juste rappeler sur ces accords d'Oslo que très tôt, des voix palestiniennes comme Mahmoud Darwish et Edouard Saïd ont parlé d'un cadre asymétrique plus gestion que solution. Leur critique permettait-elle déjà de prévoir l'impasse actuelle ?
Oui, mais on ne les a pas écoutés. Je pense qu'il y a eu un moment d'euphorie. C'était trop beau quand même. Les accords d'Oslo sont intervenus quand même à un moment donné où la situation était bloquée. Et donc, brutalement, on a ces échos qui nous viennent de d'Oslo, et qui nous disent, eh ben voilà, il y a des accords qui sont en préparation, qui vont bientôt être signés. Il y a eu un effet de surprise considérable. Donc, il y a eu cette euphorie. Et puis, tout le monde, du côté européen, a cru possible à la réconciliation. Parce que l'Europe a joué un grand rôle dans les accords d'Oslo. D'abord, comme puissance financière, elle a largement contribué à financer l'autorité palestinienne. Et puis, on avait Yasser Arafat, quand même, qui avait changé d'attitude, qui avait reconnu Israël. Et donc, il avait tendu la main. Et puis, il y a cette poignée de main historique entre Arafat
et Yitzhak Rabin,
avec sous le regard de Bill Clinton. Donc, c'était des grands moments. Donc, comment ne pas les croire ? Évidemment, faute israélienne dès le départ, il n'arrête pas franchement la colonisation qui va certes baisser d'intensité, mais quand même continuer, en violation déjà des accords d'Oslo. Donc effectivement, dès le début, on pouvait y avoir des inquiétudes, mais les deux parties avaient tendance quand même à vouloir la paix. Et l'espérance aussi du côté israélien était grande, hein, donc pas seulement du côté palestinien. Donc ce qui les a mis à mal, à la fois les extrémistes juifs et puis les extrémistes islamistes.
Est-ce que cet accord d'Oslo aurait pu évoluer différemment si d'autres choix politiques avaient été faits ?
Sans doute, oui. Oui, sans doute. Il y a eu des erreurs stratégiques qui ont été commises par les uns par les autres. Pérez, par exemple, lorsqu'il a fait bombarder le Liban juste avant cette élection et qu'il y a eu le fameux massacre de Cana, ça a joué aussi un rôle, ça l'a affaibli politiquement. Donc sans doute, si on avait eu d'autres... Barak a suscité aussi beaucoup d'espoir. Venant après un épisode Netanyahou, il a suscité beaucoup d'espoir, mais il n'a peut-être pas été à la hauteur, de même que les dirigeants israéliens successifs n'ont pas été à la hauteur.
Revenons encore une fois à la reconnaissance qui est notre sujet aujourd'hui, la reconnaissance actuelle et aussi les intentions. Peuvent-elles réellement créer des incitations capables d'infléchir la réalité sur le terrain ou c'est trop compliqué maintenant?
Alors disons quand même un mot sur ce plan franco-saoudien, puisqu'il y a un plan derrière la reconnaissance qui prévoit le désarmement du Hamas, par exemple, qui prévoit de restructurer ou de reformer, de remodeler l'autorité palestinienne, dont on voit bien qu'elle n'est plus à la hauteur de sa mission, qui a aussi, parle aussi un peu d'économie. Donc, au moins, ce plan a le mérite d'exister et d'avoir aussi l'assentiment du monde arabe. Tout le monde, globalement, le monde arabe soutient ce plan. Et de toute façon, il n'y en a pas beaucoup d'autres derrière. Donc, je crois que les pays arabes se reconnaissent dans ce plan. Et donc, ça va lui donner quand même un peu de matière. Simplement, les pays arabes sont quand même handicapés par leur relation avec les États-Unis. C'est-à-dire, ils ont toujours la crainte que les États-Unis retirent leur protection et les laissent un peu seuls face à l'Iran. Et donc, ils ont quand même toujours tendance à ménager les États-Unis. On voit que les Européens eux-mêmes ont du mal à s'en affranchir, donc personne ne peut leur reprocher. Pour revenir à votre question, la réalité sur le terrain, qu'est-ce qu'elle aujourd'hui? C'est déjà, il faut partir de là. Il y a le plan américain, donc le plan Trump, le plan qui s'appelle d'un acronyme comme seul le président américain sait les trouver, GREAT. GREAT, ça veut dire Gaza, reconstitution, accélération économique et transformation. Ouais, ça. Et qu'est-ce qu'il entend par là? Eh bien, de créer une riviera. Voilà, la riviera. Alors, cette riviera, on en sait un petit peu plus parce qu'il y a eu cette réunion récemment à laquelle a participé Tony Blair, vous vous rendez compte, un premier ministre travailliste, socialiste, donc, enfin, social-démocrate en principe, qui s'est joint à une telle réunion qui vise ni plus ni moins qu'à faire tabula rasa, à supprimer tout ce qu'il y a de palestiniens dans cette enclave, cette ville de Gaza, qui a une longue histoire, une très longue histoire. Beaucoup de richesses, exactement. Et veut en transformer donc en une riviera, avec une trentaine, quarantaine d'hôtels de luxe, une enclave qui serait réservée à Elon Musk pour qu'il puisse y faire des usines du futur, enfin on ne sait pas trop. Donc voilà l'alternative. Et puis les pauvres habitants de Gaza auront, je crois, par foyer $5,000 plus pour quitter l'enclave et pour aller Et ne plus revenir. Donc on a un peuple qui crève de misère et sous les bombardements. Et on propose à la place de bâtir des résidences pour super riches, où le fric sera la seule référence. Nous avons en fait, le monde est maintenant gouverné par des promoteurs immobiliers, puisqu'ils sont tous promoteurs immobiliers. Ils sont tous, que ce soit le président Trump, mais aussi son envoyé spécial, Wilkoff, par exemple, ce sont tous des promoteurs, ils sont tous dans l'immobilier, ils ne voient le monde que comme un projet immobilier. Et donc, faisant fi absolument de l'histoire, dont d'ailleurs aucun n'a la moindre notion de ce Moyen-Orient dans lequel il s'implique, je veux dire, ils n'ont aucune connaissance historique, aucune connaissance culturelle, on a des promoteurs immobiliers qui ne pensent qu'à faire du fric. Et on en est là quand même.
Jean-Pierre Perrin, est-ce que ce projet de Riviera est réaliste et réalisable?
Réaliste, on pourrait dire que non. Réalisable, non plus. Mais vous voyez, quand il y a eu le mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie, je crois avoir été l'un des premiers à l'évoquer. À dire il y a un projet de mur de séparation. Et à ce moment-là, de tous les côtés sont venus des tirs m'accusant, mais qu'est-ce que ce journaliste raconte n'importe quoi, c'est absolument impossible d'imaginer un mur de séparation, ils sont tellement imbriqués, les deux entités, etc. Bon. Et puis, aujourd'hui, depuis des années, ce mur existe. Et plus personne ne le remet en cause. On pouvait le penser totalement irréaliste et infaisable. Il a été fait. Alors, je me pose la question. Oui, en principe, non, c'est pas réaliste, mais sait-on, ne sait-on jamais.
Alors, essayons à présent de nous projeter. Plusieurs scénarios circulent. Un premier scénario, une recomposition du cadre. Sur quoi pourrait-on ancrer un nouveau processus crédible au-delà d'Oslo?
Pour le moment, on ne peut pas. Tant que Netanyahou sera au pouvoir, on ne peut rien faire. C'est la loi des armes, c'est tout, la loi du plus fort. Donc, tout ce qui pourrait contrariée. La logique guerrière actuellement n'aura aucune durée de vie. Netanyahou ne fera aucune concession. D'abord à cause de ses ministres d'extrême droite, et puis lui-même est totalement leur complice. On peut dire ça. Donc je ne vois pas d'autres projets. Alors évidemment, il faut préparer l'avenir, c'est-à-dire lorsqu'il ne sera plus Premier ministre à l'issue des prochaines élections de 2026. Mais là encore,
rien n'est moins
sûr. Ça ne sera pas son successeur. Est-ce que l'actuel ministre de la Défense ne sera-t-il pas son successeur, hein? Comme je l'ai dit, le 7 octobre a été un tournant. Une écrasante majorité des Israéliens pensent maintenant que les Palestiniens ne veulent pas d'État israélien. Donc ça va peser sur l'avenir. Et la seule chose qui pourra faire évoluer les choses, ce sont les accords d'Abraham. Alors les accords d'Abraham, évidemment, ils ont été signés par des pays qui n'ont pas de problème direct avec Israël, puisque nous avons les Émirats Arabes Unis, le Soudan, Bahreïn, le Maroc. Aucun n'a de conflit territorial avec Israël. Mais ces accords d'Abraham, Israël y tient. C'est grâce à ces accords, finalement, que Netanyahou n'a pas annexé la Cisjordanie, ce qu'il a sans doute déjà fait, mais il y a eu opposition de ces pays qui ont menacé de dénoncer les accords d'Abraham s'il mettait sa menace à exécution. Donc peut-être à partir des accords d'Abraham, mais où va se situer le prochain État palestinien avec toutes ces colonies, avec Gaza détruit? Donc il y a de quoi être quand même très pessimiste.
Deuxième possibilité ou deuxième scénario, un empilement symbolique, les reconnaissances s'accumulent, mais sans effet. Comment éviter que la voie diplomatique ne s'épuise?
Elle est actuellement épuisée, la voie diplomatique, puisque l'Europe a perdu beaucoup de crédibilité, pas seulement en Israël, mais aussi dans le Proche-Orient, faute d'être assez présente, et parce que trop proche encore des États-Unis. Les pays arabes ne sont pas montés au créneau comme ils auraient dû le faire. Ils ont dû quand même désespérer une partie de leur population, le fait de leur grande absence. Et heureusement quand même qu'ils maintiennent la Cisjordanie en quelque sorte en survie, en disant non, à Israël non, vous ne pouvez pas annexer la Cisjordanie, sinon on rompt les accords d'Abraham, mais en même temps, ils maintiennent leurs liens avec Israël. Alors, c'est pas forcément toujours visible, mais les liens sécuritaires entre Riyad et Tel Aviv sont bel et bien là, et ils perdurent. Donc, il y a aussi, de ce côté-là, une grande faiblesse du monde arabe, et puis du côté américain, tant que Trump sera au pouvoir, il y aura un alignement sur M. Netanyahou. C'est assez fascinant, d'ailleurs, cet alignement, parce qu'au départ, c'est grâce à Trump qu'il y a eu la première trêve, le premier cessez-le-feu à Gaza et la première libération d'otages. C'est grâce à lui. Et ensuite, brutalement, il a pris certaines distances avec Netanyahou. Alors, l'analyse qui est faite par les experts américains, c'est qu'il s'était un peu éloigné de Netanyahou parce qu'il lui reprochait d'avoir accepté que Biden soit président et n'avoir pas pris la même ligne que lui, de dire que son élection était illégale. Et il lui reprochait ceci. Donc tout se résume à une question d'ego. Et puis est arrivée la guerre des 12 jours d'Israël contre l'Iran, rejoint par les États-Unis. Et depuis cette guerre des 12 jours, eh bien on a un alignement complet des États-Unis sur Israël. Il n'y a rien que les États-Unis fassent pour contredire Israël. Donc, pour le moment, on ne voit pas comment on pourra avoir le moindre débouché tant que Trump sont au pouvoir.
Dernière question, comment passer du symbolique au mesurable, sans quoi la reconnaissance restera ou reste un marque-page et non un véritable chapitre?
Ah, très belle métaphore, oui. Alors, c'est plus qu'un marque-page, et ce n'est effectivement pas un chapitre. Je crois que le chemin est long, mais c'est quand même le début de quelque chose, et c'est pour ça que je crois qu'on peut condamner cette reconnaissance en disant « ça ne va servir à rien, c'est purement symbolique ». Non, ça va au-delà du symbole. La Palestine existe désormais, quand elle sera reconnue par les principales puissances européennes, en tant que valeur, tout simplement, et en tant que peuple. C'est déjà, évidemment, c'est peu de choses, mais c'est quand même déjà en même temps beaucoup.
Merci Jean-Pierre Perrin.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes grand reporter et écrivain spécialiste du Proche-Orient, du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Merci à vous qui nous suivez. Sachez que vous pouvez écouter l'intégralité de cette émission sur www.radioorient.com. Excellente suite de programme.